buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Bonjour à tous, ces chanceliers-là ne sont pas à la tête d'un pays, mais des universités britanniques. Et on leur demande des comptes désormais. Ils vont devoir justifier leur salaire s'ils dépassent 150 000 livres par an, soit celui de la première ministre Marie Billon.
Les présidents d'université sont-ils trop payés? C'est la question que pose le ministre de l'Éducation, Joe Johnson. Le salaire moyen est de 234 000 livres par an, environ 263 000 euros. Mais certains sont payés bien plus, comme la présidente de l'université de Bath qui reçoit l'équivalent de plus de 500 000 euros. Quand les étudiants et le contribuable investissent tellement dans l'éducation supérieure, ils sont en droit de se demander comment est utilisé leur argent, estime le ministre. Louise Richardson, la présidente de l'université d'Oxford, a défendu son salaire de près de 400 000 euros comparé à un footballeur ou un banquier. Non, nous ne sommes pas trop payés, a-t-elle dit. Elle a aussi accusé le gouvernement de vouloir détourner l'attention du public. L'augmentation des frais d'université ne fait que compenser le retrait des fonds gouvernementaux, précise-t-elle. Malgré tout, ces salaires élevés restent en travers de la gorge des étudiants qui démarrent leur vie professionnelle endettés. Alors les conservateurs ont deux stratégies pour séduire les jeunes qui seraient tentés par la solution du parti travailliste, l'université gratuite. La première, c'est d'oublier la prochaine augmentation annuelle des frais universitaires. La seconde, c'est de permettre aux jeunes sortis des études de ne commencer à rembourser leurs prêts que lorsqu'ils gagneront 25 000 livres par an et non plus 21 000. Enfin, les conservateurs veulent inciter les universités à baisser le salaire de leur président. Il leur faudra justifier la raison pour laquelle ils offrent un salaire plus élevé que celui de la chef de gouvernement Theresa May, soit environ 169 000 euros. Sauf que justifier est un terme vague et les critiques estime qu'on pourra toujours expliquer ses émoluments par la nécessité de conserver le prestige de l'éducation supérieure britannique en attirant les meilleurs leaders. Après tout, les chanceliers d'universités américaines sont souvent bien mieux payés que ça.
Pour un nombre croissant de citoyens, la multinationale Monsanto est devenue le symbole d'un modèle agro-industriel qui menace la santé des êtres vivants et l'intégrité des écosystèmes.
Le Roundup face à ses juges, c'est le nom du livre et documentaire diffusé ce mardi sur la chaîne franco-allemande Arte. Marie-Monique Robin y dresse un réquisitoire contre l'herbicide de Monsanto à base de glyphosate. Le 25 octobre prochain, l'Union européenne doit se prononcer sur le renouvellement ou non de son autorisation sur notre continent. L'enjeu est de taille car, comme l'a d'abord expliqué Marie-Monique Robin à Catherine Roland, le glyphosate est la molécule la plus dangereuse jamais inventé par l'homme.
Elle est dans l'eau, des rivières, du robinet, elle est dans l'air, elle est dans les sols, elle est aussi dans les aliments, hein. Et elle est dans nos organismes. Toutes les études montrent que la population européenne, américaine en tout cas, est totalement imprégnée. Et c'est très inquiétant parce que d'une part, le glyphosate a été classé cancérigène probable pour les humains par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS.
Oui, le CIRC.
Le CIRC. C'est un perturbateur endocrinien, ça veut dire qu'il agit à de très faibles doses. Chose qu'on dit beaucoup moins et qu'on ne sait pas en général, d'ailleurs. Le premier brevet obtenu sur le glyphosate, c'est pas Monsanto qui l'a obtenu. C'est une autre multinationale américaine, en 1964, qui l'a commercialisé comme un détergent pour détartrer les chaudières et les canalisations d'eau, parce que c'est un, ce qu'on appelle un chélateur de métaux.
Oui, elle rassemble les métaux et les rend solubles.
Tout à fait. Alors, il y a des implications très graves pour nous, les humains. D'abord pour les sols, parce qu'il fait la même chose dans les sols. Hein. Il immobilise les minéraux, donc du coup les plantes sont déficientes. Des milliers d'hectares atteints de maladies nouvelles, hein, qui sont liées aux OGM de Monsanto, et lesquels OGM ont été manipulés génétiquement, justement pour pouvoir être arrosés de glyphosate. Voilà. Ensuite, les animaux mangent ces OGM, ce maïs, ce soja transgénique, imbibés de glyphosate, et à leur tour sont victimes de maladies liées à cette fonction de chélation du glyphosate, et nous, bien sûr, également. Et puis enfin, c'est un antibiotique à large spectre, qui du coup tue les bonnes bactéries du sol et fait proliférer les mauvaises. On comprend mieux pourquoi il y a toutes ces maladies aux États-Unis notamment ou en Argentine. Et puis, quand vous avez du glyphosate dans votre organisme, vous avez donc des résidus d'un antibiotique puissant. Et ça, c'est très inquiétant.
Mais que ça rend résistant, en fait.
Voilà, comme vous le dites, on craint beaucoup, vous savez, la résistance aux antibiotiques. Alors, si vous rajoutez que tous les jours, vous avez votre petite dose de glyphosate dans votre organisme, qui s'accumule en plus, d'abord, vous avez un antibiotique qui détruit aussi les bonnes bactéries de l'intestin. Donc, c'est vraiment une molécule très, très toxique qui agit de plein de manières différentes.
Alors, qu'est-ce qui fait que malgré les enquêtes qui se succèdent, qui prouvent la toxicité de ce produit, on continue à l'utiliser partout dans le monde ?
C'est toujours les mêmes techniques. Monsanto exerce une pression énorme sur les agences de réglementation, soit en plaçant ses pions, si j'ose dire, au sein de ces mêmes agences de réglementation, n'est-ce pas ? Soit elle fournit tous les arguments scientifiques et elle demande à un scientifique d'endosser la responsabilité de l'article, mais en sous-main, il est payé évidemment par Monsanto. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Soit elle cache des données, parce que ce qu'on découvre dans mon film et mon livre, comment Monsanto a caché des études montrant que c'était tératogène, par exemple, une étude de 1980 le dit très clairement, ou montrant que c'est cancérigène, une étude de 1981-83, pour ne citer que deux d'entre elles, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ils avaient la preuve que c'était toxique et ils l'ont caché.
Qu'on va en discuter bientôt à Bruxelles, justement, de savoir est-ce que, effectivement, on va interdire ou non le glyphosate, et d'où la polémique, notamment autour de l'agence européenne, l'EFSA.
On a d'un côté toutes les études faites par les scientifiques indépendants, et c'est des centaines d'études, c'est-à-dire les scientifiques qui n'ont aucun intérêt financier dans le résultat de l'étude, qui montre que ce produit est très toxique et agit de toutes les manières que j'ai indiquées précédemment. Et de l'autre, on a les fabricants qui prétendent que ce n'est pas vrai. On a entendu récemment le commissaire européen à l'agriculture, Phil Hogan, qui a dit devant le Parlement européen que c'était comme le beurre, si on mange trop de beurre, on tombe malade. Enfin, c'est honteux. Je dirais même que c'est une insulte à toutes ces victimes qu'on voit dans mon film. Et curieusement, l'EFSA, l'autorité européenne, s'aligne sur la position des fabricants. On a même découvert que le rapport qu'ils ont émis pour dire qu'il n'y a pas de problème avec le glyphosate, finalement, c'est un copier-coller d'un document remis par les fabricants. Donc, on est en face d'un vrai problème institutionnel et je me demande vraiment comment la Commission européenne va sortir de cette situation.
Et justement, il y a eu un tribunal l'an dernier, à La Haye, où des experts et des victimes ont pu s'exprimer avec des témoignages très très forts, puisqu'on parle quasiment de génocide silencieux ou d'écocide.
Oui, donc c'est un tribunal qui s'appelle le tribunal international Monsanto, dont j'étais la marraine, qui a été créé par la société civile, des personnalités de la société civile internationale, comme Corinne Lepage, l'ancienne ministre de l'Environnement, Olivier de Schutter, qui était l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. La présidente était Françoise Tulkens, qui est l'ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc ces vrais juges ont auditionné des vraies victimes, des vrais experts venus du monde entier, et ont rendu ce qu'on appelle une opinion juridique d'autorité. Ça veut dire qu'elle est tout à fait fondée juridiquement. Et le but, c'était que partout dans le monde, des collectifs humains appuyés par des avocats puissent se lancer dans de vraies procédures devant des tribunaux nationaux, parce qu'il y a des victimes, il y en a partout. Donc moi, j'ai retrouvé des victimes en France, par exemple une maman dont le petit garçon a une malformation congénitale très grave, Sabine Grataloup. On suit notamment un chercheur argentin extraordinaire qui mène des études épidémiologiques dans des villes entourées de champs de soja transgénique arrosés de Roundup, et on voit l'impact sanitaire que ça a 20 ans après l'introduction des OGM, et c'est absolument catastrophique. Donc avortement spontané, malformation congénitale, cancer, problème de diabète, etc. Et on va aussi au Sri Lanka, où plus de 30 000 paysans aujourd'hui, riziculteurs, sont morts à cause du Roundup, et sont décédés d'une maladie rénale qui était alors inconnue dans le pays et qui est arrivée avec le Roundup. On est aussi aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 3500 agriculteurs américains qui ont utilisé du Roundup dans leurs champs et qui ont porté plainte contre Monsanto parce qu'ils sont atteints d'un lymphome non-Hodgkinien, qui est une forme de leucémie très rare.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces ouvriers, ces victimes, qui parlent de génocide silencieux, de crimes contre l'humanité ?
Alors, l'un des buts du tribunal de La Haye, c'était de contribuer à la reconnaissance d'un nouveau crime, d'une nouvelle figure pénale qui serait l'écocide, qui est le crime contre les écosystèmes. Et pour cela, il faudrait qu'un État saisisse l'ONU pour qu'il y ait un amendement fait au statut de Rome qui a fondé la Cour pénale internationale qui siège à La Haye et qui aujourd'hui ne reconnaît que 4 crimes, le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime d'agression et le crime de guerre. Et nous, je dis nous les organisateurs du tribunal, nous pensons qu'au XXIe siècle, alors qu'on a des enjeux énormes, le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, des destructions massives d'écosystèmes partout, eh bien nous devons avoir un nouvel outil juridique qui permette de poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales qui sont coupables de ces crimes. Nous pensons qu'il faut pouvoir menacer de condamnation pénale, hein, donc de prison, hein, les dirigeants des entreprises qui ont ce genre de comportement, en sachant de plus que leur produit,
c'est
très dangereux, que c'est cancérigène, etc., etc. Donc ils savent, ils cachent, et le résultat, c'est des malades partout, donc ils sont responsables pénalement, et donc il faudrait un nouvel outil juridique, et pour ça, il faudrait qu'on puisse reconnaître le crime d'écocide.
Au micro de Catherine Roland, Marie-Monique Robin, auteure du documentaire Le Roundup face à ses juges, diffusé ce mardi sur Arte, et auteur du livre du même nom aux éditions Arte La Découverte. Promouvoir une image positive de l'Ukraine tout en maniant l'ironie et sans crainte d'égratigner le voisin russe, c'est ce qui fait le succès du compte Twitter non officiel @Ukraine. Un compte devenu très populaire dans un pays où les startups d'applications pour smartphones et autres innovations se multiplient. Le reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
Ils ont l'air timides et renfermés, à siroter un thé sur le canapé d'un bar de Kiev. Et pourtant, sur Internet, Yari Madour et Oleg Daumenko sont des superstars. Depuis une quinzaine de mois, ils animent avec un troisième compère, Artem Zhukov, le compte Twitter @Ukraine. Oleg Naumenko.
Ce n'est pas qu'un simple projet entre copains. On a voulu développer un compte Twitter qui peut avoir un impact large comme peut avoir une communication officielle.
Les trois jeunes hommes se sont engagés dans l'administration publique ukrainienne après la révolution de 2014. Yari Madouk est aujourd'hui responsable de communication du président Petro Poroshenko auprès de la presse internationale. Donc la communication d'État, ils en connaissent un rayon. En observant les comptes Twitter de certains pays, ils ont eu envie d'essayer une autre approche. Oleg Naumenko.
Pour nous, c'était aussi une manière d'expérimenter une nouvelle forme de communication. Au lieu de relayer les communiqués officiels, nous avons la possibilité de manier l'ironie et de partager des histoires un peu plus divertissantes.
Sur le fil du compte Twitter, beaucoup de photos, de paysages et de châteaux qui font la promotion d'une Ukraine riche en curiosités touristiques. @Ukraine ne se mêle pas de politique intérieure et ne cherche pas à contredire le gouvernement. Le compte se donne pour objectif de défendre le pays sur la scène internationale. Et dans le contexte actuel, ça veut dire contre la Russie, et plus précisément contre le compte Twitter utilisé par le ministère des Affaires étrangères à Moscou, @Russia. Les trois compères, un peu geeks sur les bords, utilisent pour cela des éléments de la culture populaire comme les dessins animés, des Simpsons à Dora l'exploratrice. Des images et des gifs drôles, parfois très cyniques. Yari Madouk se souvient d'une controverse historique au printemps. Vladimir Poutine avait revendiqué l'héritage d'Anne de Kiev, une princesse médiévale, ce qui avait été considéré comme un réflexe datant de l'Empire soviétique. @Ukraine avait alors pris à partie le compte @Russia.
Nous sommes tous les trois des fans des Simpsons et Oleg s'est rappelé de cet épisode quand un représentant de la Russie à l'ONU change son écriteau en pleine assemblée et le nom change de Russie à Union soviétique. On a donc posté ce gif avec une simple question « Hey la Russie, vous n'avez pas changé ?» et c'est devenu viral. Le gif a été retweeté 40 000 fois. On estime que 8 millions de personnes ont vu ce tweet. Ça a fait exploser Internet, comme l'ont dit les médias ukrainiens.
Le phénomène a même dépassé le seul Twitter, comme l'explique Oleg Naumenko.
C'est intéressant de voir que même avec un petit tweet de 140 signes maximum, les médias s'en sont emparés. Foreign Policy en a profité ainsi pour écrire de longues leçons d'histoire. Ils ont recherché de leur côté des informations sur Anne de Kiev et sur les raisons de cette controverse entre la Russie et l'Ukraine. Nous n'avons même pas eu besoin d'étayer nos arguments ou de faire des recherches approfondies, ils ont fait ça eux-mêmes.
Les Ukrainiens estiment que leur pays souffre depuis des années d'un déficit de visibilité et de compréhension de la part de l'Occident. La machine de propagande et de désinformation russe est certes très efficace, mais l'opinion déplore aussi une faible stratégie de communication des autorités de Kiev. Ailleurs dans le monde, c'est le ministère des Affaires étrangères qui gère le compte Twitter au nom du pays. À Kiev, le ministère n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Ce sont donc les trois jeunes qui sont acclamés pour leur légèreté et leur originalité. @Ukraine compte maintenant 69 000 followers, encore loin des 248 000 followers de @Russia, mais en constante augmentation. Et ceux qui contribuent à donner de la visibilité au compte, ce sont aussi les fameux trolls russes, ces cybersoldats au service de la propagande du Kremlin chargé de dénigrer l'Occident ou tout pays considéré comme un ennemi.
Les trolls russes nous rendent visite de temps en temps, mais c'est en général quand on poste sur des thèmes chers à la propagande russe. À ce moment-là, ils trollent notre compte et multiplient les commentaires. Mais c'est normal, ça fait partie de la vie et du jeu sur Internet.
En l'occurrence, l'Internet d'un pays en guerre. @Ukraine est clairement un outil pour mener la guerre de l'information, et visiblement très efficace. Le compte est un révélateur de cette Ukraine des nouvelles technologies, hyper actif sur les réseaux sociaux pour défendre et promouvoir le pays, et concrétiser les attentes d'une nouvelle Ukraine, au moins de manière virtuelle. This is Brown's chocolate cake is a big success.
Jusqu'alors, on connaissait le chocolat noir, le chocolat au lait et le chocolat blanc, inventé d'ailleurs par Nestlé en 1937. À ces trois classiques, il faut désormais ajouter une quatrième couleur, le rose, avec la mise au point du chocolat rubis. Sa couleur est naturellement rose, issue d'une fève particulière. La recette, bien sûr, elle est secrète. Elle a été inventée dans la plus grande chocolaterie du monde, à Vizé, en Belgique, où s'est rendue Laxmilota.
Donc c'est la noisette, mais les autres il y avait des fruits.
Les autres il y avait des cranberries.
Tout enrobé de chocolat.
Dégustation en avant-première des gourmandises préparées par le chef pâtissier chocolatier français Martin Diez. Il découvre le chocolat rubis et le travaille depuis 6 mois. C'est un chocolat sensuel selon lui.
C'est un chocolat qui correspond vraiment à mon palais. Il est ni trop amer, il est pas sucré, il est vraiment sur l'acidité. On a des ressentis de notes de fruits qui sont assez particulières. Pour un chef, en termes de mariage avec n'importe quel autre ingrédient, c'est quelque chose d'assez unique. Par exemple, les petits napolitains, comme vous pouvez les voir, qui sont des tablettes de 12 grammes, je les ai revus sous forme de rouge à lèvres. L'idée, c'était vraiment de sortir le rouge à lèvres de son étui et de déguster le chocolat comme le rouge à lèvres. Ça vous amène également un côté assez sensuel lors de la dégustation.
C'est sucré,
petit bout d'acide.
Un goût exceptionnel. Je n'ai jamais goûté un goût pareil.
Je les pose délicatement sur la plaque chauffante, de manière à aplatir le dessous pour éviter que...
Nous sommes dans la plus grande chocolaterie au monde. Ici est né le chocolat rubis, après 13 ans de recherche dans un laboratoire. Inutile de chercher le secret, il est bien gardé. Cornel Warlop, porte-parole de la société suisse Barry Calbo.
Il y a seulement quelques dizaines de personnes qui connaissent l'existence de ce secret. Et donc, nous, on est très fiers et on veut vraiment garder ce secret dans le monde du chocolat. Mais moi, je ne connais pas le secret.
Cette société est issue de la fusion entre le chocolatier belge, Calbo, et le français Barry. Les fèves proviennent de plusieurs régions du monde, notamment de Côte d'Ivoire, du Brésil ainsi que d'Équateur. Chaque fève contient plus de 20 000 composants. De nombreux tests ont été effectués. Cornel Warlop.
Il y a 20 000 molécules dans chaque fève. Et donc, pour vraiment rechercher les caractéristiques qui facilitent la couleur et le goût, il faut vraiment beaucoup de recherche, il faut vraiment une capacité énorme pour vraiment rechercher quelles compétences, quelles caractéristiques font bien avec les goûts existants, avec le palais des consommateurs. Et donc c'est pour ça qu'on a pris 13 ans de recherche.
L'idée, c'est de créer le succès que le macaron a eu dans le milieu de la pâtisserie et de ramener ce succès-là dans l'environnement de la chocolaterie.
Pour déguster ce chocolat en Europe, il faudra attendre encore quelques mois, probablement un an, le temps de le conditionner et le mettre en vente. Mais si vous êtes curieux et pressé, il sera en boutique en Chine dès la fin de l'année, notamment pour la fête des célibataires le 11 novembre. Et pour ceux qui se laisseraient tenter, le chef prévient.
On commence vraiment une dégustation dans la douceur, dans le crémeux, et on finit avec de l'acidité. Et c'est tellement intriguant que si on aime ce produit, on a envie d'en reprendre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment assez addictif en fait.
Avec l'acidité du chocolat rubis, puisque c'est la première chose qu'on a en bouche, c'est le chocolat rubis qui est autour du volcano. On va poursuivre avec l'acidité de la compotée de framboise. Il y a le croustillant qui va nous aider également à prolonger la dégustation. Et on va finir vraiment avec la douceur du coco qui va nous aider à créer cette symphonie du goût et avoir une dégustation qui soit mémorable.
Le reportage de Laxmilota à Vizé en Belgique. Et aujourd'hui encore, c'est Françoise Grelot qui a assuré la réalisation et la mise en onde d'Accent d'Europe.